franceinter.fr.
Il est 13h. Le journal Claire Servagen. Bonjour Claire.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. Situation explosive à Air France où le plan de réduction des effectifs a été présenté ce matin en comité central d'entreprise. Des centaines de salariés ont fait irruption lors de la réunion du CCE. Le DRH a été malmené, il a terminé torse nu. Faut-il revoir les systèmes d'alerte? Faut-il mieux former la population aux risques majeurs? Et faut-il limiter les constructions en zone inondable? Les questions sont multiples après les inondations meurtrières de ce week-end sur la Côte d'Azur. Inondations qui ont fait 18 morts et 3 disparus. On ira sur place, bien sûr, et on sera en ligne avec le député LR Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône, qui est un spécialiste de ces questions. À la une de l'actualité également, la tension de plus en plus palpable entre la Russie et la Turquie, avec des incidents aériens près de la frontière avec la Syrie. Médecins du Monde qui lance un appel à propos de la jungle de Calais. L'organisation demande qu'on décrète l'état d'urgence humanitaire. Le prix Nobel de médecine décerné à 3 chercheurs qui ont permis de progresser dans la lutte contre le paludisme. Et puis le football avec Dominique Rocheteau qui félicite Zlatan Ibrahimovic, désormais meilleur buteur du PSG. Le temps, bonjour Élodie Calac.
Bonjour Claire, bonjour.
Alors,
à tous.
On va peut-être commencer par la Côte d'Azur, Élodie.
Oui, un temps sec sur la Côte d'Azur ce matin. Alors l'accalmie se poursuit. Malgré tout, les nuages vont devenir plus nombreux cet après-midi. Je vous rassure, seulement quelques gouttes sont attendues. Sur le Languedoc-Roussillon, là, le vent marin apporte beaucoup de nuages. Le vent d'automne souffle jusqu'en pleine Toulousaine. Ailleurs, c'est perturbé. De bonnes pluies sont arrivées par l'ouest ce matin. Elles ont gagné la Normandie, la région parisienne, l'Auvergne. Elles peuvent s'accompagner d'un coup de tonnerre et de vent. Elles vont progresser vers les frontières du nord dans l'après-midi, la Bourgogne, puis le nord-est. Sur la Bretagne, jusqu'au sud-ouest après les pluies. Puis un ciel plus changeant va s'installer avec des averses parfois orageuses, toujours du vent. Sur l'Aquitaine, vous aurez de belles éclaircies pour cet après-midi. Les températures, elles, sont en hausse. 18 degrés à Cherbourg et Paris, 20 degrés à Metz, Nantes et Lyon, 22 du côté de Limoges, Montpellier, Nice, 24 degrés pour Bastia, 26 à Toulouse, jusqu'à 27 à Biarritz. Et puis demain, ça sera instable partout avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux, mais elles épargneront davantage les régions méditerranéennes tout de même.
Avant de parler de la situation dans le sud-est de la France, cette situation très tendue à Air France. C'est aujourd'hui que la direction présente son fameux plan de restructuration au syndicat. Un plan qui prévoit 2900 suppressions de postes. Ce matin, la réunion du comité central d'entreprise a été interrompue par plusieurs centaines de salariés furieux qui ont réclamé la démission du PDG. Ils ont également malmené le DRH qui a fini sans sa chemise. Manuel Ruffès, vous êtes sur place.
Et oui, ils sont là, ces salariés très remontés et solidaires. Il n'y a qu'une seule cible ce matin, et pas question de bisbille avec les pilotes. Non, c'est la direction d'Air France qui cristallise tous les mécontentements, au point qu'effectivement, ce matin, un membre de la direction des ressources humaines s'est fait très sérieusement secouer. Mais pas d'état d'âme pour ce salarié qui travaille au sol à Roissy.
Il y a eu un peu de tension, ils lui ont pris son badge pour dire qu'il n'était pas de la compagnie. Il déméritait lui par contre, sans projet. Le projet s'est licencié, bravo, on n'a pas besoin d'eux pour dire ça. Ils lui ont enlevé sa chemise, il était torse nu apparemment. Comme ça il va savoir ce que c'est de travailler dans le froid et se retrouver à poil après 9 ans de sacrifice ou 10 ou 15 ou 20 ans. En France ça ne veut plus rien dire. Apparemment le sacrifice c'est la mort, c'est Pôle emploi.
Pas sûr donc que le CCE reprenne normalement cet après-midi, mais les informations principales ont d'ores et déjà été confirmées, en particulier les 2900 suppressions de postes, dont des licenciements secs. C'est ce qui peut expliquer, même s'il ne les cautionne pas, les violences de ce matin pour Miguel Fortea de la CGT.
Quand il y a un effet de masse, c'est difficilement contrôlable les gens, surtout lorsque leur licenciement est acté. Après, bien évidemment, on ne peut pas s'en réjouir et cautionner et dire que c'est normal, c'est... Mais que voulez-vous ? Nous, on a essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La direction ne nous a pas écoutés. On avait devant le parvis la possibilité de s'exprimer paisiblement. Ça n'a pas été le cas. Les gens ont poussé et on a été jusque-là.
Donc on ne sait pas si le CCE va reprendre cet après-midi, mais on sait déjà qu'Air France va déposer une plainte pour violence aggravée. Voici Jean-Pierre Pernel, Manuel Ruffès, France Inter.
Inter 13.
18 morts et 3 disparus. Dernier bilan des inondations qui ont frappé la Côte d'Azur ce week-end entre Nice et Mandelieu. Bilan donné il y a une demi-heure par la préfecture des Alpes-Maritimes à nos confrères de France Bleu Azur. La 18e victime a été retrouvée dans le parking de cette résidence de Mandelieu où 8 personnes en tout auront péri finalement. Aujourd'hui, il s'agit surtout de nettoyer, de déblayer et de remettre en état. Reportage à Biot, une des communes les plus touchées où 3 pensionnaires d'une maison de retraite ont péri noyés. C'est un reportage signé Anne Patinec.
Énorme chantier de déblaiement, de nettoyage, de réparation. Voilà ce à quoi ressemble le bas du village de Biot depuis ce matin. Des dizaines d'engins sont à l'ouvrage le long de la rivière de la Brague avec leurs tronçonneuses. Les agents du conseil départemental dégagent les très nombreux arbres et objets qui obstruent le cours d'eau. Il faut aussi réparer les réseaux qui ont souffert, le réseau électrique mais aussi Internet. Stéphane Navio de RT Technologies a renforcé ses équipes.
Là, on est une dizaine en train de passer de nouveaux câbles et de rétablir le signal au plus tôt. C'est compliqué dans l'environnement dans lequel on évolue, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes sur les chantiers, il y a aussi les services de la ville qui sont en train de dégager les voies pour améliorer le flux de circulation. Il y a les pompiers, voilà. Remplacer le câble, ce n'est pas forcément compliqué, c'est l'environnement dans lequel on travaille.
Dans plusieurs quartiers, l'heure est encore au nettoyage. Une centaine de bénévoles est venue prêter main forte. Responsable de la Croix-Rouge, Candy leur indique où ils peuvent être utiles.
On leur distribue tout le matériel et on essaie de les dispatcher sur les endroits où on peut, à bras d'homme, aider, puisqu'il y a quand même des endroits où les dégâts sont tellement considérables qu'il faut d'abord faire passer les machines avant de faire passer les hommes. Le matériel, ce sont des seaux, ce sont des gants, ce sont des serpillères, ce sont des balais, des pelles, des raclettes. Je crois que le matériel principal, c'est leur bonne volonté et leur élan de solidarité ce matin.
Selon le président du conseil départemental, Éric Ciotti, venu sur place ce matin, Biot est la commune qui a le plus souffert de ces inondations sur le plan matériel. Biot, Benjamin Chauvin, Anne Patinec, France Inter.
Pourquoi des orages ont-ils fait autant de victimes? C'est toute la question. Il y a bien sûr la quantité d'eau qui est tombée jusqu'à 195 mm en quelques heures sur la ville de Cannes, 178 à Mandelieu. Il y a aussi la question de l'urbanisme, de toute cette eau qui dévale des côtes bétonnées. Il y a enfin la question de l'alerte météo, autant d'éléments sur lesquels nous allons revenir. Mais arrêtons-nous d'abord un instant sur le comportement des habitants, notamment à Mandelieu où 8 personnes ont péri dans le sous-sol de leur immeuble. La plupart en tentant de sauver leur véhicule. Le jeune Léo, qui habite la résidence du Cap-Vert, en a réchappé, lui. Et il en est bien conscient avec le recul, lui qui a pris des risques inconsidérés pour tenter d'aller chercher son scooter. C'est un témoignage recueilli pour nous par Cécilia Arbonin.
Ouais, j'ai eu peur parce que c'était pas loin. Tout le monde criait, surtout le camping d'à côté, tout le monde disait « venez m'aider ». Il y avait 1,50 m d'eau, ici on pouvait pas passer. L'eau allait vite monter, j'étais dans le garage. Il y avait plein d'eau dans tous les couloirs, il y avait 70 cm.
Tu t'es pas dit « je prends un gros risque là, c'était pas trop dangereux ?»
Bah non, j'ai pensé à mon scooter et puis au début il y avait pas beaucoup d'eau. Et d'un seul coup quand elle a cassé la porte de garage, et bah, tout est venu vite. Il y a eu des grosses vagues et j'ai pas pu réagir vite. Moi j'ai tiré mon voisin, je l'ai aidé à remonter et tout. Bah ouais, j'étais carré, j'avais de l'eau jusqu'au torse, donc on n'est pas passé loin. J'étais avec mon ami, lui aussi il a failli passer.
Avec le recul, tu te dis que c'était inconscient ou pas de sauver ce scooter?
Ça a servi à rien puisque tous ceux qui ont réussi à sortir, bah, ils ont quand même perdu leur véhicule.
Voilà le jeune Léo qui revient de loin et qui le sait. On reste à Mandelieu où une des écoles de la ville est toujours fermée. Aujourd'hui, l'école Pierre et Marie Curie. Du coup, les enfants sont accueillis au centre de loisirs. Les petits copains, c'est là que s'est rendu Thibault Lefebvre.
Les 200 employés de mairie, pompiers et bénévoles, ont réussi à remettre sur pied toutes les écoles, sauf une, celle d'Eva, Mathéo et Justine.
La cour, elle est pleine de boue et l'eau est rentrée dans la cantine et dans les classes de maternelle.
Et du coup, ben, y a des volontaires qui sont venus dans l'école pour aider quand même un peu, parce que sinon ça aurait mis 10 fois plus de temps. Et normalement, ça doit durer une semaine.
Ça vous fait quoi de vous retrouver ici en centre aéré?
C'est bizarre parce que d'habitude, normalement, le lundi, on va à l'école, on va pas au centre. Et on dirait comme si on était en vacances puisqu'on travaille pas et on joue, on s'amuse.
Un portail brisé chez Mathéo, le garage enseveli chez Eva. Pour la directrice de l'école, Virginie Pernaud, il n'est pas question de reprendre tout de suite les enseignements.
Notre premier questionnement auprès des enfants ce matin a été effectivement de discuter avec eux, d'ouvrir la conversation, d'être à leur écoute, de façon à voir s'il n'y avait pas de traumatisme latent. Bon, apparemment, les familles, les enfants n'ont pas vu de choses impressionnantes, même si dans leur quartier, il y a quand même eu plus d'un mètre d'eau qui a circulé, mais c'était de nuit, donc je pense que les enfants ont vu peu de choses.
Il n'y a toujours pas d'électricité à l'école Marie Curie et ça devrait durer encore plusieurs jours. À partir de demain, seuls les CP devraient rester au centre de loisirs. Les plus grands pourraient intégrer des classes d'autres écoles.
Allez, on y va, récré.
Voilà, les inondations de ce week-end ont fait des dégâts considérables, dégâts qu'il est impossible de chiffrer pour l'instant. L'État promet de débloquer des fonds sans attendre l'indemnisation des assurances. Mais le plus urgent, c'est de rétablir l'électricité et le téléphone, sans oublier évidemment les liaisons ferroviaires qui restent coupées pour l'essentiel entre Toulon et Nice. On fait le point avec Jean-Baptiste Marie de France Bleu Azur.
Ce midi, 9000 foyers sont toujours privés d'électricité, essentiellement dans les secteurs de Cannes et Mandelieu-la-Napoule, à l'ouest du département. ERDF explique que les postes de distribution électrique qui alimentent ces zones sont toujours inondés et le pompage de l'eau prend beaucoup de temps. Ce n'est qu'après que l'électricité sera rétablie en toute sécurité. Même cas de figure chez l'opérateur téléphonique Orange. Là, 35 000 clients sont privés de téléphone et l'opérateur prévient, ça va durer plusieurs jours. Le poste de Cannes-Saint-Nicolas, point névralgique du réseau fixe et mobile d'Orange, est complètement hors service. Les pompiers viennent prêter main forte aux techniciens. Orange a d'ailleurs déclenché pour la première fois son plan Cristal, qui a entraîné le déploiement de structures mobiles afin de prendre le relais du réseau le temps des travaux. Enfin, à la SNCF, les capacités de circulation des trains sont très réduites. Une seule voie est utilisable entre Les Arcs dans le Var et Nice. La vitesse y est limitée à 30 km/h. Du coup, les TGV Paris-Nice restent bloqués en gare de Toulon. La SNCF espère pouvoir faire rouler dans l'après-midi un aller-retour entre Nice et Marseille. Jean-Baptiste Marie, France Bleu Azur pour France Inter.
Question maintenant sur l'alerte lancée par Météo France, alerte orange et non pas rouge. Dès hier, les services de Météo France expliquaient qu'ils n'avaient pas les moyens d'être plus précis compte tenu de la soudaineté et du côté totalement exceptionnel de ce phénomène. À Toulouse, Stéphanie Glaisis.
D'abord, les ingénieurs météo rappellent qu'ils avaient bien vu le phénomène arriver sur la Côte d'Azur, mais pas sa localisation exacte pour les pluies les plus violentes. Pascal Brovelli, directeur adjoint des services de prévision.
Il faut voir que sur les villes comme Antibes, Nice, Cannes, les records depuis le début des observations étaient de 65 à 70 mm. Donc on a majoré sur cet épisode le record de plus de 50%. Ce phénomène s'est mis en place à partir de 20h en limite du Var et des Alpes-Maritimes et s'est déplacé assez rapidement sur le littoral pour gagner donc Cannes, Mandelieu, Antibes, en 1h30, 2h. Et les précipitations significatives, c'est à partir de 21h. Donc en fait, le temps de prendre la décision, de produire les bulletins, de lancer la procédure, on a fait le constat que la vigilance rouge est arrivée, que le phénomène se terminait.
Comment anticiper au mieux ces épisodes cévenols violents? Ça passe notamment par de nouveaux moyens déjà en cours d'expérimentation. Cyril Honoré, l'autre directeur adjoint des services de prévision de Météo France.
C'est plus forcément une question de résolution, c'est-à-dire de taille du carré, effectivement, mais de la science qu'on peut mettre dans le modèle et des mécanismes atmosphériques qu'il va être capable de représenter et de représenter avec une confiance en fait utilisable.
Enfin, pour alerter les populations, il faut évidemment un système d'alerte fiable, notamment par SMS. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Alors justement, on va reparler de tout ça avec notre invité qui est Christian Kert. Bonjour.
Bonjour.
Député LR des Bouches-du-Rhône, spécialiste de tout ce qui est prévention des risques, hein, puisque je précise que vous présidez l'Association française de prévention des catastrophes naturelles, le Conseil d'orientation de prévention des risques naturels majeurs. Vous êtes en direct d'Aix-en-Provence. Alors cette catastrophe qui vient de faire 18 morts et 3 disparus samedi, est-ce que vous diriez que c'est une catastrophe naturelle, que c'est la faute à pas de chance, ou est-ce que c'est en partie la faute de la main de l'homme?
C'est les deux, c'est une catastrophe naturelle et elle se trouve aggravée par la main de l'homme, c'est-à-dire par une urbanisation intensive sur la Côte d'Azur. Et ce que l'interpellation que ce drame nous laisse, c'est comment en milieu urbain extrêmement dense réagir, prévenir et surtout créer les conditions d'une alerte, parce que on n'est plus là dans la seule problématique de la prévention, on est dans la problématique de l'alerte. Quand j'entends que des gens sont descendus dans des parkings au moment où l'eau montait, je trouve que c'est la posture de gens qui ne sont pas formés, pas informés. Et donc là, il y a une véritable préoccupation, au-delà bien entendu de tout ce que la législation et la réglementation en matière de prévention peut apporter.
Il y a un travail de sensibilisation à faire à destination de la population, comme ça se fait par exemple en Outre-mer, où il y a une culture du risque. Quand il y a une alerte cyclonique, les gens restent chez eux. Il y a un travail à faire de ce côté-là, vous nous dites?
Il y a y a un énorme travail. Il y a une culture du risque qu'il faut développer. La Provence Côte d'Azur est une région, est une superbe région, mais c'est une région exposée à de multiples risques. Le risque incendie de forêt, le risque inondation, glissement de terrain, et jusqu'à y compris les séismes, puisque le dernier séisme meurtrier en France s'est déroulé en 1909 au cœur de la Provence. Il y a très peu d'exercices de secours liés, par exemple, au risque sismique. C'est un tort. Il y a des pays, alors heureusement beaucoup plus élevés en matière de risque sismique, qui ont mis au point des systèmes de formation et d'information dès l'école, dès la classe maternelle. Bon, des expériences sont en cours en France, mais pour l'instant, c'est insuffisant. Et on le voit dans l'attitude des riverains à Nice, à Cannes, à Biote, il n'y a pas cette culture du risque. Et c'est à nous, je crois, les politiques, à nous, les responsables, maintenant qu'une réglementation et une législation sur la prévention est plutôt bien établie, de passer au stade supérieur, celui de l'alerte, celui de l'utilisation des nouvelles technologies. J'entendais quelqu'un parler de SMS. Bien sûr, il faut utiliser les nouvelles technologies et faire en sorte qu'une zone à risque soit immédiatement inondée par des SMS pour dire attention, c'est alerte orange ou alerte rouge, c'est danger.
Parce que là, par exemple, c'était alerte orange et on a l'impression que les gens se sont un peu habitués à ces alertes oranges. Ils se disent, bon, bah voilà, hein, une fois de plus, alerte orange, il ne se passe pas grand-chose.
Oui, malheureusement, c'est le problème de ces messages qui parviennent souvent. On est souvent en alerte orange et je crois que la vigilance s'étiole un peu. Et donc peut-être Météo France qui fait vraiment, je crois, un très bon travail. Peut-être Météo France pourrait-il réviser un peu sa grille d'alerte pour réserver l'alerte absolue dans des cas comme les Alpes-Maritimes, tout autant bien sûr que c'est prévisible. Et puis pour le reste, il faudrait peut-être avoir 2 degrés d'alerte parce qu'on s'est habitué à l'alerte orange et je crois que plus personne ne le prend suffisamment au sérieux.
Alors travail sur l'alerte, meilleure formation de la population, Christian Kert. Pour ce qui est de tout ce qu'on a pu construire sur le littoral, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que par exemple il faut de nouvelles infrastructures pour faciliter l'écoulement de l'eau ou est-ce que c'est trop tard de toute façon?
Ça n'est jamais trop tard, mais il est bien évident qu'on ne va pas démolir ce qui a été construit. Je crois que maintenant, il faut appliquer certaines méthodes. Bon, par exemple,
il y a des endroits où on a démoli, hein, pardonnez-moi. Du côté de...
Le coefficient de biotope pour les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire veiller à ce que, par exemple, on ne puisse plus construire d'immenses parkings bétonnés, qu'il y ait des aires de terre ferme. Il va falloir revenir un peu à des espaces jardins, des espaces où la terre absorbe l'eau. Je crois que c'est vers des solutions de cette nature qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut un peu repenser l'urbanisme et lorsqu'on crée des zones piétonnes, par exemple, bon, ben, il faut veiller à ne pas avoir seulement du pavement, il faut avoir des espaces de terre, il va falloir repenser ça et puis surtout il faut veiller désormais à ce que Xynthia, à cet égard, la tempête Xynthia d'il y a quelques années nous a servi en retour d'expérience, il faut surtout interdire absolument de construire en zone inondable le long de digues qui ne sont pas suffisamment surveillés. C'est ça la véritable problématique. C'est une modernisation de la politique de la ville qui aille vers la sécurisation.
Voilà, beaucoup de pistes de réflexion. Merci beaucoup Christian Kert, député LR des Bouches-du-Rhône, d'avoir répondu aux questions de France Inter. Et puis vous faisiez allusion à la tempête Xynthia. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, il y avait des maisons qu'on avait démolies hein, sur la côte atlantique suite à ce qui s'était passé. Un grand merci à vous. Et puis comme toujours en pareil cas, sachez-le, certains profitent de la situation depuis samedi soir. 9 personnes ont été interpellées pour des pillages dans les secteurs inondés.
Claire Servageant.
Une situation apocalyptique à Calais où des milliers de migrants sont livrés à eux-mêmes ou à des gangs de passeurs. Médecins du Monde demandent désormais qu'on décrète l'état d'urgence humanitaire sur la zone où la sécurité des bénévoles commence à poser problème. On retrouve sur place notre envoyée spéciale Mathilde Dehimy.
Les enfants courent sur les chemins défoncés, beaucoup d'enfants, car désormais les réfugiés arrivent par famille entière. Syriens, Kurdes, Érythréens, Afghans, le camp est saturé. Maya Conforti de l'auberge des migrants.
On fait une annonce qu'il va y avoir un nouveau bâtiment de 50 femmes au mois de novembre. Et pourquoi est-ce qu'il leur faut autant de temps? Nous, on a des familles avec des tout-petits qui dorment dans la boue et sous le plastique. C'est scandaleux, quoi. Pour les mesures de sécurité, comme ils les appellent, l'argent vient tout de suite. Mais quand c'est pour aider les gens, ça n'arrive pas.
15 sanitaires pour 14 4000 personnes, 400 douches possibles par jour. Des maladies, des blessures, des tensions. Médecins du Monde a dépêché il y a une semaine son spécialiste sécurité, Amine Trouvé-Bactouche.
La relation du réfugié par rapport à nos intervenants se dégrade. On a des personnes qui sont délaissées, il y a une colère qui s'est installée, une incompréhension. Ils viennent, il ne faut jamais oublier, de situations encore très difficiles. Sans compter qu'à côté de ça, il y a des vrais rapports de force entre les communautés elles-mêmes. Et aussi beaucoup de craintes liées aux organisations mafieuses. Et sur le plan humanitaire, il y a vraiment une alerte grave.
Il faut absolument décréter l'état d'urgence humanitaire, dit-il, avec des moyens conséquents. Le froid, la pluie dans ce marécage sablonneux aggravent les conditions de vie. Et Maya Conforti est désabusée.
La cocotte minute est sur le feu, quoi. La situation, elle est intenable. On ne peut pas laisser les gens accumuler ici. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver ? J'en sais rien. On n'en sait rien.
1500 places en container seront bientôt ouvertes. Trop peu, trop long, disent les associations.
Merci beaucoup Mathilde Dehimi. Un premier incident dans le ciel turc ce week-end, quelques jours à peine après le début des frappes russes en Syrie. L'aviation turque a intercepté un avion de combat russe dans son espace aérien. Ankara a vivement protesté. L'ambassadeur russe en Turquie a été convoqué. Le ministre turc des Affaires étrangères doit d'ailleurs être reçu par le secrétaire général de l'OTAN pour en parler d'une minute à l'autre. À Bruxelles, où se trouve également le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui lui doit s'entretenir avec les dirigeants européens de la situation des réfugiés. En direct avec nous de Bruxelles, Quentin Dickinson, que je salue. Bonjour Quentin.
Bonjour Claire, bonjour à toutes.
Alors Quentin, l'Union européenne a besoin d'Ankara pour tenter de freiner l'afflux des réfugiés, notamment des réfugiés syriens vers l'Europe.
Oui, c'est cela. La Turquie a depuis peu ceci de commun avec les Européens, c'est qu'elle redoute que la campagne aérienne de bombardement à grande échelle en Syrie que vient de lancer la Russie n'aboutisse à un nouvel accroissement de l'exode de populations civiles vers la Turquie et donc aussi vers l'Europe. C'est ce qui explique qu'il s'est échafaudé ces derniers jours entre hauts fonctionnaires turcs et hauts fonctionnaires européens, une espèce de plan commun selon lequel l'UE cofinancerait une demi-douzaine de camps supplémentaires en Turquie et s'engagerait à accueillir en Europe 500 000 personnes, c'est-à-dire le quart du nombre des réfugiés actuellement en Turquie. Parallèlement, l'Agence de sécurité des frontières extérieures de l'UE, Frontex, devrait accroître sa présence entre la Grèce et la Turquie, notamment en coordonnant les opérations des gardes-côtes de ces deux pays. C'est de ce plan-là qu'on devrait discuter ici cet après-midi entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses interlocuteurs de l'UE, en l'occurrence les présidents du Parlement européen, Schulz, du Conseil européen, Tusk, et de la Commission européenne, Juncker.
Merci beaucoup Quentin Dickinson. Médecins sans frontières se dit écœuré des justifications données par les autorités afghanes suite au bombardement de son hôpital à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Les autorités afghanes affirment que des talibans se cachaient dans le bâtiment, ce que réfute catégoriquement MSF. L'organisation demande une enquête exhaustive et transparente, elle parle d'un crime de guerre. La vieille ville de Jérusalem toujours interdite aux Palestiniens après un regain de tension. Ce matin, Israël a procédé à une frappe sur Gaza après un tir de roquette. Mahmoud Abbas dénonce l'escalade israélienne. Un braquage a mal tourné ce matin en Seine-Saint-Denis. Deux malfaiteurs qui venaient de braquer un entrepôt de livraison de bijoux à Saint-Ouen se sont retrouvés face à des policiers de la BAC. Il y a eu un échange de coups de feu dans lequel un policier a été très grièvement blessé. Il est même dans un état désespéré. Un des malfaiteurs a également été blessé. Rien de tel qu'un robot pour vous mettre d'accord. Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui sont en déplacement au Japon, en ont fait la démonstration ce matin à Tokyo. Laurence Perron.
La paix des braves au Japon, c'est l'image pour les télés. Manuel Valls et Emmanuel Macron dans la même voiture Nissan, hybride, tout sourire. Cette année, l'innovation entre la France et le Japon va se traduire par des échanges de compétences, mais les choses sont déjà bien avancées. Le Premier ministre français a eu droit d'ailleurs à une démonstration assez impressionnante. Il a été accueilli par deux robots humanoïdes, Pepper et Nao, capables, paraît-il, d'intégrer une part d'émotion humaine. C'est le résultat de la collaboration entre l'entreprise française Aldébaran et le japonais SoftBank.
Nous allons maintenant laisser la place à un autre invité. Celui-ci vient de France. C'est le ministre des ministres. Il s'appelle Monsieur Valls. Bonjour Monsieur Valls.
Bonjour.
Sympathique, hein.
On appelle ça l'alliance de la high-tech et de la high-touch. Une jolie séquence pas polémique pour un sou. Au Japon, ça n'est de toute façon pas l'ambiance. Quand on pose une question au Premier ministre en conférence de presse, elle doit être validée en amont. Un rêve high-tech, peut-être, pour le ministre des ministres.
Cette confiance, nous la nourrissons chaque fois que nous nous tournons l'un vers l'autre.
Tokyo, Laurent Lucas, Laurence Perron, France Inter.
Deux référendums pour le prix d'un les 16 et 18 octobre prochains. D'un côté, la consultation lancée par le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui veut demander aux militants de gauche s'ils sont favorables à l'Union face à la montée du Front National. De l'autre, une consultation sur Internet uniquement, lancée par des militants qui jugent cette consultation ambiguë. Parmi eux, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Question posée face à la droite et à l'extrême droite. Souhaitez-vous que le gouvernement tienne ses engagements et mène une politique de gauche? Fin de citation. Nouvelle réunion de l'Eurogroupe cet après-midi à Luxembourg. À l'ordre du jour, le fameux plan d'aide à la Grèce à laquelle de nouvelles réformes vont être demandées. Au Portugal, la droite a réussi l'exploit de remporter les législatives hier, malgré les mesures d'austérité mises en œuvre ces dernières années. Cela dit, la droite est en recul et elle n'a plus la majorité absolue.
Inter 13. Claire Servageant.
Le début de la saison des Nobel avec aujourd'hui le Nobel de médecine. Il revient à trois chercheurs spécialistes des maladies parasitaires. Un Irlandais, un Japonais et un Chinois dont les travaux ont permis notamment des avancées dans la lutte contre le paludisme. Véronique Julia.
Oui, les trois lauréats cette année sont l'Irlandais William Campbell, le Japonais Satoshi Omura et la Chinoise Yu-Yu Tu. Tous les trois sont octogénaires. Les deux premiers sont salués pour la découverte d'un médicament contre des infections causées par des vers, notamment ce qu'on appelle la cécité des rivières qui fait des ravages en Afrique. On peut devenir aveugle au stade ultime. La troisième est récompensée pour sa découverte de l'artémisinine. C'est une molécule contre le paludisme. La chercheuse a exploité en fait une plante utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et qui s'est révélée être le traitement le plus efficace à l'heure actuelle contre la maladie. Explication avec Stéphanie Blandin. Elle est chargée de recherche à l'Inserm.
La découverte de l'antipaludique en question, donc l'artémisinine, a été une petite révolution pour le traitement de cette maladie. Dans tous les autres traitements qui ont été utilisés, il y a toujours eu des résistances qui se sont développées, à savoir le parasite est devenu résistant aux composés qu'on utilisait pour soigner les gens. Donc l'artémisinine, ça a permis de sauver plein de gens, en combinaison aussi avec par exemple les moustiquaires qui ont été traités avec des insecticides. C'est hyper efficace.
Et je vous rappelle que le paludisme tue encore plus de 500 000 personnes chaque année dans le monde, en particulier des enfants. Le comité Nobel salue les conséquences, je cite, incommensurables de ces traitements sur la santé humaine.
Merci Véronique Julia. Reprise cet après-midi à l'Assemblée du débat sur la fin de vie. La proposition Claeys-Leonetti revient en discussion en deuxième lecture après avoir été en grande partie vidée de sa substance par le Sénat. Du coup, les députés vont reprendre le texte à zéro. On connaissait déjà le verbe zlataner qui veut dire en gros marquer un but, gagner et avec la manière. Le verbe n'est pas dans le dictionnaire, mais Zlatan Ibrahimovic lui est désormais entré définitivement dans la légende du Paris Saint-Germain, car hier soir, lors du match contre l'OM, avec ses deux buts sur pénalty, il a battu le record de Paoletta, 110 buts avec le club. Paoletta battu, tout comme Dominique Rocheteau, troisième meilleur buteur du PSG, qui salue la performance au téléphone de Fabrice Amgral.
Ce qui est remarquable, c'est que ce record, il l'a établi en très peu d'années. C'est sa quatrième saison, donc en 4 ans... Marqué plus de 100 buts. Donc voilà, et puis c'est un joueur que j'aime bien, moi, parce que c'est un super joueur, un super attaquant, qui a été vraiment complet, quoi, dans tous les domaines. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est une personnalité, ça c'est sûr. C'est un compétiteur, c'est un joueur qui est quand même hyper physique, costaud, grand, donc voilà, et il est d'une souplesse exceptionnelle. Bon, je crois qu'il a fait des arts martiaux quand il était jeune, mais voilà, c'est ce qui m'impressionne le plus. Toujours est-il que c'est difficile de dire si c'est ou si ça sera le plus grand joueur de l'histoire du PSG.
Voilà pour cet hommage de Dominique Rocheteau à Zlatan Ibrahimovic. La mort à 67 ans de l'auteur suédois de romans policiers Henning Mankell, le père du célèbre commissaire Kurt Wallander. Il a été emporté par un cancer. Il avait 67 ans. C'est la fin de ce journal.